Chronique environnement ce matin. D'abord et avant tout, on se rappelle qu'hier, c'était le 1er avril, donc vous avez peut-être eu à faire face à quelques blagues de bon ou de mauvais goût. Également plein de poissons d'avril, hein, on s'amuse toujours. Mais aujourd'hui, le 2, on va pas se contenter de regarder les poissons. On va rentrer à l'intérieur d'eux et parler d'un sujet plutôt méconnu, qui est le mercure, poisson invisible qui peut être contenu... je dis moins poisson, mais plutôt poison invisible qui peut être contenu dans la chair des poissons. Le mercure, c'est un métal lourd, toxique, qui s'accumule dans la chaîne alimentaire et qui peut avoir des effets graves sur la santé humaine et la faune aussi. Le plus inquiétant, c'est qu'il peut se retrouver dans notre assiette, notamment pour la consommation de poissons. Alors, pour nous éclairer un peu sur ce sujet-là, nous recevons aujourd'hui Johan Jalouzeau, qui est coordonnateur de projet en environnement à l'organisme du bassin versant du Témiscamingue, qui est avec nous dans les studios. Bonjour, Johan.
Bonjour, Simon. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, le mercure est un problème environnemental majeur, à la fois car il est persistant dans l'environnement, il est bioaccumulable et il est toxique. Donc une fois libéré dans l'environnement, il disparaît pas et il s'accumule au fil du temps. On va y revenir.
OK. On sait que le mercure, c'est un élément naturel, oui, mais comment se retrouve-t-il dans nos lacs et dans les rivières?
Alors le mercure, il provient de sources naturelles et humaines. Environ 40% des émissions mondiales sont dues à des phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques, l'érosion des roches qui peuvent être riches en mercure et les feux de forêt. Mais l'essentiel du problème vient de l'activité humaine, qui représente 60% des émissions. Les principales sources incluent à la fois la combustion du charbon, qui est utilisé pour produire de l'électricité par exemple, qui libère du mercure piégé dans la roche, par l'exploitation minière, notamment l'extraction de l'or qui utilise du mercure pour amalgamer l'or. Certaines industries comme la métallurgie et la production de pâte et papier, et les déchets industriels et électroniques tels que les ampoules fluo compactes, les piles et les vieux thermomètres.
Une fois que ce mercure-là est rejeté dans l'environnement, il finit, j'imagine, sa course dans l'eau?
Exactement. Lorsqu'il tombe dans les lacs et rivières, en fait, sous forme de dépôt atmosphérique, il y a des bactéries qu'il transforme en méthylmercure, qui est une forme encore plus toxique et qui s'accumule dans les organismes vivants.
OK. Donc, plus un poisson est haut dans la chaîne alimentaire, plus il va, j'imagine, accumuler du mercure en mangeant les autres?
C'est exactement ça, Simon. En fait, ce phénomène s'appelle la bioamplification. Donc, les petits organismes aquatiques absorbent le mercure, puis sont mangés par des poissons de taille moyenne, qui eux-mêmes sont consommés par de plus gros prédateurs, comme le doré jaune, le brochet, le thon ou l'espadon, si on parle des milieux salins. Ces poissons peuvent contenir jusqu'à 1 million de fois plus de mercure que dans l'eau environnante. Donc c'est vraiment ça, le phénomène de bioamplification.
Et concrètement, c'est quoi les conséquences pour les humains qui en consomment régulièrement de ces poissons-là qui contiennent plus de mercure?
Le méthylmercure, c'est un neurotoxique puissant.
Okay.
Donc une exposition prolongée peut engendrer plusieurs conséquences comme des troubles neurologiques, donc perte de mémoire, difficulté de concentration... des problèmes de développement chez les nourrissons, car le mercure traverse le placenta, des atteintes au foie et aux reins, et un affaiblissement du système immunitaire. C'est pourquoi il y a certaines populations qui doivent faire particulièrement attention à leur consommation de poissons, notamment les femmes enceintes et les jeunes enfants.
OK. Mais là, si on est passionné de pêche, et Dieu sait qu'il y en a des passionnés de pêche au Témiscamingue, et qu'on consomme du poisson régulièrement, comment on fait pour savoir si on est à risque?
Eh bien, c'est là que le guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce intervient. C'est un guide qui est publié par le ministère de l'Environnement du Québec et c'est vraiment un outil essentiel.
OK. Et un outil essentiel comme ça, qu'est-ce qu'on y trouve exactement dedans?
Alors, ce guide, il permet de vérifier... les... Pardon, excusez-moi.
Pas de problème, mon cher. Prends une petite gorgée, il n'y a pas de trouble, c'est bien correct.
Donc, excusez-moi. Ce guide permet de vérifier les niveaux de mercure dans les poissons en fonction du plan d'eau où ils ont été pêchés.
OK.
Il indique les espèces concernées, les espèces en fait sur lesquelles le ministère a prélevé des échantillons dans la chair des poissons, les quantités maximales recommandées pour une consommation sans danger et des restrictions spécifiques pour les groupes vulnérables comme les femmes enceintes et les jeunes enfants.
Est-ce que tu as un exemple peut-être plus concret à nous donner?
Ouais, on peut prendre par exemple le doré jaune du lac Simard au Québec. Mmh. Donc, selon le guide, la consommation recommandée est de 2 repas par mois pour un doré jaune de grande taille. Donc quand on dit grande taille, c'est supérieur à 20 pouces. Car son taux de mercure atteint 1,74 mg par kilogramme de chair. Donc pourtant, il y a des enquêtes qui montrent que certaines personnes en consomment jusqu'à 30 repas par mois. Donc il dépasse en fait la limite de 1500%.
C'est considérable, c'est même énorme. Donc, si on pêche notre propre poisson, il faut, j'imagine, vraiment consulter ce guide-là pour essayer de s'aider.
Absolument. Ce guide est disponible en ligne sur le site du ministère de l'Environnement du Québec. Il y a juste à taper « Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce ». Donc, il permet aux pêcheurs de faire des choix éclairés et d'éviter une intoxication au mercure pour eux-mêmes et pour leurs proches avec qui ils vont partager le poisson à table.
OK. Là, on parle de poissons depuis tantôt, mais j'imagine que c'est pas la seule espèce aquatique qui est touchée par le mercure.
Non, ben la faune aussi subit de graves impacts. Les oiseaux piscivores, comme le plongeon huard, les balbuzards ou même d'autres mammifères marins, mm-hmm. accumulent le mercure, ce qui peut entraîner des troubles de la reproduction, donc moins d'œufs, puis des œufs plus fragiles, des problèmes neurologiques qui vont affecter leur capacité à chasser et fuir les prédateurs, et une altération du système immunitaire, donc un peu comme l'humain, en fait.
OK. Et là, donc, on se rend compte que c'est toute la chaîne alimentaire qui est affectée.
Ouais, et c'est pourquoi il est crucial de, à la fois, réduire les émissions de mercure et à la fois de suivre les recommandations de consommation du poisson.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, à nous?
Ben, voici quelques gestes simples. Donc, en premier, je le répète parce qu'on ne le dira jamais assez,
oui, oui.
Consultez le guide de consommation qui est disponible sur Internet pour adapter sa consommation. En fait, sur le guide, c'est une carte interactive. Tu cliques sur ton plan d'eau, ton lac ou ta rivière, ça te sort un tableau avec l'espèce puis combien tu peux en manger selon sa taille.
Tout simplement.
C'est vraiment simple à utiliser. Deuxièmement, varier son alimentation. En alternant avec des poissons moins bioaccumulateurs comme la truite ou le saumon, mais tout simplement en variant son alimentation, donc en mangeant autre chose que du poisson trop régulièrement. Troisièmement, réduire notre consommation d'énergie fossile, notamment en soutenant les énergies renouvelables ou les énergies un peu plus vertes. Et quatrièmement, recycler correctement les déchets dangereux, donc comme les ampoules et les piles, pour éviter qu'ils libèrent du mercure dans l'environnement. Ces déchets-là, on ne met pas ça dans la poubelle normale. On emmène ça à l'éco-centre ou dans des bacs faits exprès qui sont accessibles dans certaines quincailleries, par exemple. C'est vraiment important.
Ben merci beaucoup, Johan, pour toutes ces informations-là. Ça va nous aider. Un dernier mot?
Ben, le mercure, comme on vient de le montrer, c'est un contaminant qui est sournois, on ne le voit pas. Mais en s'informant et en adoptant les bons réflexes, on peut réduire les risques pour notre santé et protéger nos écosystèmes. Donc je conseille à tout le monde d'avoir une consommation responsable, de consulter le guide, parce qu'on ne veut pas vous voir vous intoxiquer.
Merci beaucoup, Johan. Ça a été un plaisir de te rencontrer enfin en personne. On s'était fait quelques chroniques ensemble au téléphone,
exact.
Mais enfin, tu as pu venir faire un petit tour dans notre beau Témiscamingue, en espérant te revoir le plus souvent possible. Et merci pour cette belle chronique.
Le plaisir est partagé. Bonne journée à tout le monde.